Amis du polar et du roman noir, bonsoir et bienvenue dans Onde Noire, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne.
Au sommaire de cette émission, un carnet rose pour une collection toute noire. Dans une minute, nous recevrons Nelly Bernard, qui est la directrice d'un tout nouveau label qui s'appelle Ombre Noire, à l'ombre d'une autre maison d'édition, une grande maison Flammarion, pardon. Et dans la deuxième partie, beaucoup de coups de cœur, tous azimuts. Donc, bienvenue à une nouvelle maison d'édition, un nouveau label, Ombre Noire, et bienvenue à Nelly Bernard. Nelly Bernard, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup de nous rejoindre. Alors, deux petits mots.
Merci à vous.
Oh non, c'est nous. On sait qu'on vous avez très très peu de temps, donc c'est très gentil. Parcours jamais très loin des romans, jamais très loin des livres, au plus près du polar dans les années 2000, puisque vous étiez à la tête de Babel Noir. Et puis depuis quelques mois, l'occupation de monter, créer de toutes pièces, mais vraiment de toutes pièces, un nouveau label qui s'appelle donc Ombre Noire. Acte de naissance à la parution du premier livre, c'est ça ? Dans le ventre des mers, Marin Le Dain ?
Absolument, le 26 septembre dernier.
Voilà. Et donc, si des titres, malheureusement, de certains romans passent trop vite, le nom d'un label va rester très très longtemps. Comment on choisit le nom d'un label et comment Ombre Noire est arrivée à la surface, s'il vous plaît ?
Alors, comment c'est arrivé ? Ombre Noire, tout d'abord, le nom, très simplement, il faut simplement imaginer donc cette envie de monter ce nouveau label. Je suis donc partie avec mon petit bâton de pèlerin à la recherche de partenaires. Et pour la dénomination, tout simplement, je me suis assise à une table avec un papier, un crayon. Pour vous faire la confidence totale, j'ai convoqué quelques petites amies, des petites copines. Je leur ai dit, voilà ce que je veux faire. Les filles, on s'y met, vous m'aidez, on y va tous azimuts. Et on a penché pendant quelques heures dans tous les sens. On a cherché, on a lancé ce qu'on avait dans la tête, on en a évidemment rayé beaucoup. On a eu des idées absolument saugrenues et Ombre Noire est apparue. Ombre Noire est apparue et c'est celui qui est resté. Donc ça a été, à vrai dire, une soirée très amusante, beaucoup de rire et qui a donné Ombre Noire. Donc c'est un très chouette souvenir. C'est très amusant.
Ben, j'espère qu'il y en aura beaucoup dans cette maison d'édition, des beaux souvenirs.
j'espère aussi.
Et donc, mais il y a quand même, alors j'insiste quand même, parce que les mots ont des signifiants, on travaille dans la littérature quand même, il y a cette idée, on travaille tous dans le roman noir là, et c'est vrai que cette idée de frontières très floues, de choses qui ne sont pas ni complètement noires, ni complètement blanches, le mot ombre, quand même, il y a une signification prégnante quand même dans ce mot.
Exactement. Mais tout à fait. Vous êtes la première à le souligner, mais c'est exactement ça, cette volonté d'employer le terme de ombre. L'ombre. Voilà, on a tous une ombre. Et l'ombre, suivant les heures de la journée, elle n'est pas à la même place. Et elle nous promène dans beaucoup de monde. Et ombre, pour moi aussi, ça évoque, alors ça c'est un peu, ça évoque aussi le gris et le noir de ce petit monde, quoi. Voilà, nous sommes dans ce milieu, dans cette frontière très floue du noir, où on pourrait même dire tous les gris sont possibles.
Tous les gris sont permis. Et la nuit, absolument. En plus, il n'y a plus d'ombre, ce qui permet de faire disparaître certaines choses ou certaines gens. Alors, je vais peut-être aller exactement à contrario de ma précédente question, parce qu'en France, on aime beaucoup catégoriser. Est-ce que vous avez défini avec votre équipe une ligne éditoriale ou est-ce que les chemins vont être un petit peu plus sinueux ?
Alors, je crois qu'ils seront plus sinueux. Ça sera quelque chose de plus réfléchi. Moi, personnellement, je préfère le noir, vraiment le noir. Ensuite, le noir... Les textes sont... Moi, je préfère très nettement le noir, ça c'est clair. Ensuite, il faut faire attention, parce que le noir est moins accessible, peut-être moins apprécié, et c'est aussi celui, malheureusement, dans les catégories, qui se vend un peu moins bien, alors qu'il y a vraiment des perles magnifiques dans ce registre-là.
On va en parler d'un dans pas longtemps.
Voilà. Mais pour porter une maison d'édition, quelle qu'elle soit, il y a besoin de locomotives. Il y a besoin de locomotives pour pouvoir tirer les petits wagons que l'on aime derrière. Et la grosse locomotive, on espère tous la trouver comme éditeur, donc j'espère aussi la trouver. Et ça ne sera pas forcément un noir. Ça sera peut-être un thriller, ça sera peut-être un policier, mais ça sera un polar qui plaira au plus grand nombre. Et celui-là, il est aussi indispensable à trouver, parce que c'est aussi celui-là qui permettra de faire vivre la maison pour pouvoir se permettre derrière de publier toutes les petites perles noires dont on a envie.
Voilà, alors donc, des perles noires avec une fréquence par an, vous êtes donné 6, 8, 10 romans par an ?
6 titres. 6. C'est modeste. 6 titres, c'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup de travail. On est une petite équipe. Il faut prendre le temps de sélectionner les textes. C'est bien. Et puis, il ne faut pas plus encombrer les libraires. Les libraires, ils croulent sous le nombre de livres à paraître, sous les nouvelles maisons d'édition. Il y en a plusieurs par an, tout domaine confondu. Les libraires n'ont pas des murs extensibles, ils n'ont pas des tables extensibles. Donc, il faut y aller doucement. Il faut se faire remarquer par les libraires, avoir leur soutien et commencer doucement. Et ça, ils apprécieront beaucoup plus.
Alors, les locomotives ou la locomotive, on va aller la chercher un peu de partout, puisque dans les deux premiers romans que l'on va évoquer dans deux minutes, l'équilibre entre romans français et romans étrangers, est-ce que vous fixez un quota, on va dire, un petit peu, ou est-ce que c'est vraiment coup de cœur et à l'idée d'un livre qui va plaire au plus grand nombre?
Alors, il n'y aura pas réellement de quota. Enfin, si, en même temps, j'allais dire, il n'y aura pas vraiment de quota, c'est pas complètement vrai. Dans mon esprit, sur 6 titres par an, il y aura 2 français pour 4 étrangers. Après, la règle demeure souple, parce que je peux très bien aussi, si j'ai des coups de cœur, publier 3-4 français dans une année et moins de textes étrangers. C'est aussi ça mon luxe. Mais en gros, on peut dire, comme les textes français sont plus difficiles peut-être à trouver, la moyenne, je pense que la moyenne sera de 2 français pour 4 étrangers.
Avant d'évoquer les deux premiers romans, un qui est paru le 26 septembre, l'autre qui paraît dans une semaine, il y a une chose, moi, qui m'a beaucoup interpellée. En dehors de la couverture, dont malheureusement à la radio nous ne pouvons pas vraiment parler, donc je laisse nos auditeurs la découvrir chez leur libraire favori, mais c'est la manière dont vous avez tenu à serrer le prix. C'est-à-dire que, pour l'instant, et j'espère que ça va durer le plus longtemps possible, ce sera des romans à moins de 20 euros, des grands formats à moins de 20 euros. C'est important.
Oui, oui, c'est très important. C'est très important. Dans une de mes vies antérieures, j'ai été libraire, donc je connais bien ce problème pour les lecteurs en librairie de pouvoir acheter un livre à plus de 20 euros. C'est compliqué, et encore plus aujourd'hui, bien évidemment. Donc, il y a un seuil psychologique à ne pas dépasser. Mais pour ne pas dépasser ce seuil psychologique, eh ben, il faut s'en tenir aussi à un format, à un papier. Il y a énormément de contraintes à côté, à respecter pour arriver à un point d'équilibre qui nous permettra effectivement de rester en dessous du 20 euros du seuil psychologique. Il va sans dire qu'un livre qui va faire 800-900 pages, on aura du mal à tenir le 20 euros. Parce que là, il y a des frais de traduction, il y a des frais d'impression qui vont faire exploser le prix de revient de ce livre-là, ça sera beaucoup plus compliqué. Et les livres à 800-900 pages seront quand même rares. Donc, en principe, on restera en dessous des 20 euros et j'y tiens. J'y tiens beaucoup.
Ça, c'est une très bonne nouvelle pour les lecteurs et pour nos auditeurs. Donc, premier roman, Dans le ventre des mers. Et là, on est quand même ravis d'en parler parce que, pour vous dire, tout dire, Alain Noiraud, à l'association dont on s'occupe, c'est quand même un de nos écrivains préférés, Marin Leda. Je rappelle qu'avec son précédent roman, il a eu plusieurs prix, dont le dernier, il y a très très peu de temps, à Villeneuve-les-Avignon. Alors, Dans le ventre des mers, c'est un livre très riche, très puissant, et aux multiples entrées. Pour en dire juste deux mots, on s'en rend compte dès le début, puisqu'on a deux pages très intimistes, avec « On est au plus près d'une femme », et tout de suite après, une immense explosion qui va détruire tout un village en Ardèche. Et qu'est-ce qu'on découvre après dans ce village, s'il vous plaît, Nelly Bernard?
Alors, qu'est-ce qu'on découvre?
Il ne faut pas tout dévoiler, hein, s'il vous plaît.
Non, alors on va essayer. On va essayer de ne pas tout dévoiler. En tous les cas, on peut se mettre à la place des flics qui vont arriver sur les lieux et qui vont découvrir des corps, plus de 90 corps, non seulement carbonisés par l'explosion, mais atteints surtout de mutations génétiques. De très très curieuses mutations génétiques, et bien évidemment auxquelles ils ne comprennent rien. À partir de là, une enquête va se mettre en place pour essayer de comprendre ce qui se passait dans ce village. On s'apercevra en fait qu'il s'agissait d'un immense laboratoire. Les flics sont absolument perplexes, jusqu'au jour où on s'aperçoit qu'il y a eu une rescapée. Il y a eu une rescapée, et cette femme, partout où elle va passer, un peu partout en France et ensuite en Europe, elle sème la mort. Elle sème la mort, mais pour des raisons très, très, très précises. Et cette femme, qui est une guerrière, est aussi une victime et surtout une mère. Une mère qui recherche son enfant. Un flic va la poursuivre, dans le but de l'arrêter dans un premier temps. Un flic torturé, avec des problèmes de couple. Très beau personnage, très...
Vincent Auger, très beau personnage.
Très attachant, Vincent Auger. Et au fur et à mesure de sa cavale, après cette rescapée qui s'appelle Lord Ahan, et ben lui-même, il sera confronté à des choix, et les frontières vont devenir très floues, et peut-être que la course-poursuite va s'inverser, et qu'il ne traquera plus très longtemps une victime, une coupable, mais une victime à laquelle il va essayer d'apporter son aide.
Ouais, c'est là qu'on est complètement dans le roman noir, parce que, encore une fois, les frontières vraiment s'affadissent, et c'est vrai qu'entre... Parce que c'est haletant, il faut dire qu'il y a un rythme dans ce roman absolument incroyable. En gros, si vous avez autre chose à faire, commencez par faire autre chose, parce qu'une fois que vous aurez ce livre en main, vous n'arrêterez plus. Ça, c'est vraiment magnifique de la part de Marin Le Dain, sa construction narrative. Et c'est cette course-poursuite entre ces deux personnages qui vont se croiser, s'entrecroiser, Laure, Vincent Auger, qui ont des poids sur les épaules absolument incroyables. Et puis, cette toile de fond, cette description d'une société... Alors, le roman commence en 2008, mais il aurait pu mettre, Marin Le Dain aurait pu mettre 2015. C'était un peu pareil. C'est actuel, oui, donc, et on avait l'impression que ça ne peut pas se passer.
Il aurait pu mettre 1995 aussi.
Oui, tout à fait. Parce qu'on est là encore aussi dans certains... On ne peut pas dire lourd secret, parce qu'on commence à pas mal en parler, mais c'est vrai que ces manipulations génétiques, le fait de faire des surhommes ou des surfemmes grâce à des bus électroniques, grâce à la nanotechnologie, donc là, on a une ampleur dans le récit et dans les thèmes évoqués par Marin Le Dain qui brasse complètement les problèmes sociétaux, actuels.
Et tu sous-entendrais qu'on ferait ça sans nous le dire ?
Non, je ne me permettrais pas. Y aurait-il un grand complot ? Marin Le Dain aime bien nous faire peur.
Il aime bien faire peur, mais il faut savoir que la base, comme vous l'avez souligné précédemment, tout est vrai, tout est très très documenté, et il pousse le trait pour construire sa fiction et pour mieux nous avertir, nous les lecteurs, mais la base est vraie, et ce n'est pas du tout de la science-fiction, c'est un thriller, ça veut aussi nous distraire, mais il nous permet de nous poser certaines questions, et des vraies questions.
Oui, et c'est ça qui est très intéressant, et c'est en cela aussi que ça fait un grand roman noir, parce que c'est un constat de société absolument terrible. Très documenté, effectivement, il y a ces nanotechnologies qui nous entourent et dont on n'entend jamais parler, et je crois que c'est la force d'un romancier que de nous faire poser des questions, alors qu'un roman, enfin non pas un roman, mais un document, voire même une émission de télé qui nous raconterait ce que va pouvoir faire la nanotechnologie dans quelques années, nous interpellerait beaucoup moins que ce roman.
Et notamment Arte a eu des émissions sur ce thème-là il n'y a pas très très longtemps, mais en deuxième partie de soirée. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde effectivement qui le regarde, de par l'heure, bien évidemment. Et ça avait un petit côté un peu austère. C'était un peu moins attrayant que de lire le livre de Marin, en tous les cas. Même si c'était très intéressant.
Oui, et puis je crois que c'est toujours pareil, le romancier, et surtout le romancier dans le genre littéraire que l'on défend, vous et nous, c'est-à-dire le roman noir et aussi toutes les facettes du roman policier, permet de mettre l'humain au milieu de ces problèmes et au milieu de cette technologie, et de nous toucher d'autant plus. Parce que ce personnage de Laure, dont Marin Le Dain dit qu'elle est plus tout à fait une femme et pas encore complètement une machine, c'est terrible ce qui lui arrive. Et on peut penser qu'on peut presque s'identifier à elle.
On peut presque s'identifier à elle. Et là où Marin a vraiment réussi ses personnages, c'est que nous avons maintenant des discussions les uns les autres, entre amis. Et je vois aussi les chroniques qui tombent, donc les avis des hommes ou des femmes qui ont chroniqué le livre. Certains considèrent Laure comme une meurtrière. Moi, je la défends en disant pas du tout. C'est une femme absolument formidable. Je trouve que c'est une très belle guerrière. C'est pas une meurtrière pour moi, en ce qui me concerne. Et je vois certains hommes qui se prennent d'amitié et d'une très forte empathie pour Vincent Auger, qui défendent ce personnage. Ils ont fortement raison, bien sûr, mais qui ont vu le livre et qui l'ont analysé et qui l'ont ressenti du point de vue de cet homme-là. Et je vois que beaucoup de femmes autour de moi ont fait le contraire, elles se sont mis à la place de l'or, totalement à la place de l'or. Donc il y a deux lectures différentes, et je trouve que Marin, pour ça, il a réussi ses personnages de façon absolument formidable, parce que voilà, chacun s'approprie le livre et il y a une véritable empathie pour les personnages. Et ça, c'est très très bien, très très bien. Et même à un point où le livre, c'est là que c'est formidable, nous échappe, parce que chacun se le récupère. Les hommes, les femmes, on se récupère et on en arrive à avoir des petites discussions tout à fait amusantes sur les motivations de Vincent, sur ce qu'il est, sur ce qu'il aime.
Oui, on peut imaginer encore plein de choses. Et je pense, et l'intérêt d'un bon roman, c'est justement de susciter, de laisser des échos dans notre cerveau suffisamment longtemps pour en discuter et partager avec les autres lecteurs. Alors, il nous reste peu de temps, j'aimerais quand même qu'on évoque un livre. Très sobrement, c'est pas le titre qui vous aura coûté le plus d'argent à traduire, puisqu'il est très sobrement intitulé 41.41. C'est un calibre de... Alors, je sais pas si c'est pistolet ou revolver, là. Je m'y trompe totalement. C'est le premier livre traduit d'un Mexicain, Rogelio Guedea. Vous nous en dites quelques mots, s'il vous plaît?
Alors, Rogelio Guedea, ça, c'est un roman noir. Très, très noir, basé sur un fait divers réel qui s'est passé donc au Mexique. C'est un livre qui dénonce la corruption politique et les mœurs de certains politiques, c'est-à-dire concernant la pédophilie. C'est une histoire terrible. C'est une histoire terrible. C'est la perte d'innocence d'un gamin.
Oui, parce que ça va être sous les yeux un des personnages principaux, c'est un petit gamin qui est dans un bout de la ville et qui va être mêlé à ces sombres histoires de pédophilie.
Absolument. Un gamin issu d'un milieu très 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 pauvre, qui va être mêlé à ces histoires de pédophilie. Parallèlement, il y a un meurtre, une série de meurtres qui sont commis avec un flingue, un 41, des assassinats d'homosexuels. Et le livre est construit de telle façon où régulièrement, un chapitre sur deux, il y a des dépositions des témoins qui ont des liens avec les victimes. Le livre est vraiment très fort, est vraiment très noir, il a des phases très poétiques, mais il faut savoir que l'auteur, lorsqu'il a écrit ce livre, lui-même avait été agent fédéral dans son pays. Ce qui veut dire agent fédéral, là-bas, il prenait les dépositions, c'était un peu l'équivalent d'un greffier. Nous en France. Donc, les dépositions telles qu'elles apparaissent dans le livre, elles sont toutes réelles. La forme des dépositions est réelle. Et toute l'histoire est vraie parce que cet homme, agent fédéral, donc un fonctionnaire greffier, il était là. Il était le témoin de cette histoire, de cette horrible histoire. Il a tout consigné. Tout comme la déposition du coupable à la fin, qui a une vie absolument abominable, il ne faut pas révéler complètement la fin. Il était là, c'est lui qui a pris cette déposition, qui a donc assisté à l'arrestation de cet homme. C'est absolument terrible. D'ailleurs, ça lui a valu à l'auteur de partir. Il a craqué, il est devenu dépressif, il est devenu hypochondriaque, il n'en pouvait plus de voir ses horreurs au quotidien, de voir des gens se faire tabasser aussi. Donc il est parti. Il est devenu journaliste, il a continué à travers ses écrits, il avait des billets d'humeur dans les journaux locaux, là où il habitait, c'est-à-dire dans l'état de Colima. Il a continué à dénoncer les mœurs politiques, tant et si bien qu'une fois que son livre est paru, là-bas au Mexique, il a été obligé de partir, il a reçu nombre de menaces de mort, et lui et sa petite famille, aujourd'hui, vivent en Nouvelle-Zélande, il ne peut toujours pas rentrer au Mexique suite à cette histoire.
Ouais, ça paraît assez terrible, effectivement. On ne savait pas les débuts de cette histoire, donc et j'ai bien aimé la façon dont vous avez évité la polémique pistolet revolver en évoquant un flingue. Donc c'est le calibre d'un flingue .41 et ça sort donc mercredi prochain. Et on est malheureusement au bout de notre première partie d'émission. Nelly Bernard, on souhaite beaucoup beaucoup de chance à ce label. Ombre noire, on souhaite beaucoup de beaux succès et un très très joli collier de perles noires au cou de cette maison d'édition. Merci beaucoup Nelly, à bientôt.
Et à très bientôt, j'espère.
Au revoir. À bientôt, amis auditeurs, dans la deuxième partie. Alors.